Marie Webb, le précieux fléau. Livre 1, chapitre 2. Il faut le dire aux abeilles. Mon frère Gédéon naquit l'année où commença la guerre avec les Français. Ce devait être la raison pour laquelle père l'appela de ce nom guerrier, Gédéon. John 6 avait l'habitude de dire que ce nom lui allait fort bien, puisqu'on en pouvait faire un diminutif. On peut transformer beaucoup de prénoms en petits noms affectueux, tout comme l'on découpe dans un manteau ou une robe des vêtements pour enfants. Mais de Gédéon, on ne pouvait rien faire. Et il en était du nom comme de l'homme. J'étais plus attachée à mon frère qu'on ne l'est d'ordinaire. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de remarquer cela à son sujet. Si personne ne vous appelle par votre nom, il finit par s'oublier. Et les gens, pour la plupart, ne l'appelaient plus jamais par son nom de baptême. Ils l'appelaient Sarne. Du temps où père vivait encore, on disait « le vieux Sarne » et « le jeune Sarne ». Mais après la mort de père, Gédéon sembla prendre toute la place pour lui. Je me souviens comme il sortit cette nuit d'été, paraissant manger et boire l'endroit tant il le dévorait des yeux. Cependant, ce n'était pas par amour du lieu, mais pour le profit qu'il pourrait en tirer. Il ressemblait beaucoup à père alors, et de plus en plus chaque année, aussi bien du dehors que du dedans. À part le fait qu'il était moins colère et plus tenace que père, il était son vrai double. La colère de père montait terriblement vite, et quand elle était à son paroxysme, il était un lion dévastateur. C'est probablement cela qui donna à mère cet air de femme soumise. Mais Gédéon, je ne l'ai vu en colère, ce qui s'appelle en colère, que 3 fois. La plupart du temps, un regard suffisait. Il vous lançait un regard comme un couteau, et vous le laissiez faire à sa convenance. J'ai vu un chien ramper et gémir parce qu'il lui avait lancé un de ses regards. Les Sarnes ont presque tous les yeux gris, un gris froid comme les temps en hiver. Et les Sarnes mâles sont pour la plupart sombres et maussades. On dit « maussade comme un Sarne » dans le coin. Et l'on raconte qu'il y a quelque chose de bizarre dans la famille depuis que Timothy Sarne fut frappé par la foudre fourchue au temps des guerres de religion. Il y avait déjà des Sarnes par ici en ce temps, et ils ont toujours été là dès qu'il y eut des habitants. Or, Timothy, à l'encontre des siens et des conseils d'un homme de Dieu, se décida pour le mauvais camp, quel qu'il fût, peu importe maintenant. Ainsi, il fut frappé par la foudre et laissé pour mort. Se remettant après quelques instants, l'homme de Dieu lui conseilla à nouveau d'épouser la bonne cause et d'éviter la foudre. Mais les Sarnes étaient obstinés. Il resta dans son camp, et, comme il rentrait chez lui en passant par une chênaie, il fut frappé par la foudre une nouvelle fois. Et apparemment, l'éclair vint en son sang. Il pouvait dire qu'une tempête se préparait bien avant qu'elle n'arrive, et on disait que quand l'orage craquait, des éclairs l'entouraient de telle façon que personne ne pouvait l'approcher. Depuis ce jour, les Sarnes ont la foudre dans le sang. Je me demande parfois s'il s'agit d'une histoire vraie ou si elle est bien trop ancienne pour être crédible. J'ai bien souvent eu l'impression que même la région de Sarnes était trop ancienne pour être vraie. Les bois, la ferme et l'église à l'autre bord de l'étang étaient tellement vieux qu'il semblait sortir d'un rêve. Il y avait aussi quelque chose d'effrayant en ce lieu, et les gens avaient peur d'y aller à la tombée du jour. Le bruit furtif d'un poisson sautant dans l'eau. Le bateau de Gédéon qui cognait les marches à petits coups, comme si quelqu'un frappait à la porte. La chaussée, qui partant de derrière la barrière de notre jardin, descendait à perte de vue vers l'étang, pour se perdre dans son eau. Tout attestait de la solitude de ce très vieil endroit. Bien des fois, les dimanches soirs, un léger son de cloche s'élevait de la surface de l'eau. Nous croyions qu'il s'agissait des cloches du village englouti. Mais je pense maintenant que ce n'était que l'écho de nos propres cloches de l'église. On dit bien qu'en certains endroits le son frappe contre un mur d'arbre et rebondit comme une balle. Ce fut l'un de ces dimanches soirs. Quand le léger tintement se faisait entendre avec le franc carillon de nos quatre cloches, que nous manquâmes le service religieux pour la seconde fois. C'était une si belle soirée, et père et mère étaient affairés avec les sémages des abeilles. Nous décidâmes donc, entre nous, de ne pas aller à l'église, et d'attendre Jancy au portillon du cimetière, et de l'emmener. Parce que le vieux Béguiné ne s'inquiétait pas trop si elle fréquentait ou non l'église, n'étant pas lui-même le meilleur ami du pasteur. Il l'envoyait tous les quatrièmes dimanches quand l'horloge marquait 5 heures, car nous n'avions qu'un service religieux par mois, le pasteur ayant une église à Brampton où il vivait, ainsi qu'une autre, ce qui nous rendait d'autant plus polissons de manquer le service. Mais il ne lui demandait jamais si elle était arrivée à l'heure ou en retard, ou si même elle y était allée, à plus forte raison. Il n'allait pas la questionner sur le sermon. Notre père, lui, nous interrogeait à la fin de la journée, quand nous étions en chemise de nuit. Il s'asseyait sur le banc-coffre, avec une verge de bouleau à la main, et ce banc-coffre, qui paraissait imposant toute la semaine, devenait soudain tout petit, comme un meuble de poupée. Quel que soit l'endroit où père s'asseyait, il faisait paraître le siège petit. Nous nous tenions debout devant lui, pieds nus, sur les dalles froides, dans nos chemises grises faites maison, dont mère avait filé le fil, que le journalier tisserand avait tissé sur le métier dans notre grenier, parmi les pommes. Alors il nous interrogeait, et, quand nous nous trompions, il faisait une marque sur le banc, et à chaque marque correspondait un coup de verge à la fin de la séance. Bien que père ne sût point lire, il n'oubliait jamais rien. C'était comme s'il tournait et retournait les choses dans sa tête pendant qu'il travaillait. Je pense que c'était un homme très intelligent, qui n'avait pas de quoi employer son esprit. S'il avait eu à surveiller une de ces nouvelles machines à tisser dont j'ai entendu parler, cela aurait pu l'occuper. Mais on ne connaissait pas encore ces choses-là à l'époque. Nous étions les seules machines qu'il avait. Et chaque quatrième dimanche, à Noël et à Pâques, nous aurions tant souhaité être les enfants de Béguindy, quand bien même notre pasteur en pensait du mal, et qu'il allait jusqu'à le condamner en chair, même nommément. Je me rappelle une fois, après que père nous ait très vilainement frappés, suite au long serment de Pâques. Gédéon avait 7 ans et moi 5. Alors Gédéon se leva soudain, au milieu de la cuisine, pour dire « Je veux et souhaite être le fils de maître Béguindy. Et le diable peut avoir mon âme. Amen. » Père fut au paroxysme de la colère ce soir-là, assurément. Il hurla après mère de façon terrible, disant qu'elle avait fort mal réussi avec ses enfants, parce que la fille portait la marque du diable sur elle, et maintenant, il apparaissait que le fils venait du même malin. Cela, je le sais, parce que mère me le dit plus tard. Mais moi, ce dont je me souviens, c'est qu'elle se fit toute petite, et, comme petite elle l'était déjà, elle paraissait menue comme une fée. Et elle répondit « Pouvais-je empêcher le lièvre de croiser mon chemin? Pouvais-je l'en empêcher ?» Cela semblait si étrange d'entendre répéter cela encore et encore. Même à présent, je peux revoir la pièce quand je ferme les yeux. Et plus particulièrement quand j'ai près de moi un bouquet de coucous. Parce que, cette année-là, la fête de Pâques était soit tombée tard, soit dans une période de joli temps, où les coucous sortent en avance, en certains endroits abrités, parce que nous en avions cueilli. La pièce était toute sombre comme une cave, et le feu rougeoyant qui brûlait, tranquille et veillant, faisait penser à l'œil du Seigneur. Il y avait aussi un petit œil rouge sur chaque faïence dans le vaisselier où la lueur se laissait prendre. Bien souvent, depuis ce moment, j'ai regardé ces lueurs rouges comme des échos du feu, de même que les cloches fantômes étaient les reflets des carillons. Et je me disais que l'éclat et le faste de ce monde ne sont guère plus que des reflets. Des rangées et des rangées de lueurs de feu, rougeoyantes, qui ne sont en fait que des ombres de feu, des carillons de cloches joyeuses qui tintent et ne sont cependant que de simples ombres de cloches. Un simple soupir qu'un mur de feuilles a fait rebondir ou qui s'est échappé des oulisses. Les yeux de père, aussi, avaient emprisonné la lueur, de même que ceux de Gédéon. Mais pas ceux de mère, parce qu'elle se tenait le dos au feu, près de la table, où se trouvaient les coucous, en train de desservir les tasses et les assiettes de souper. Et s'il paraît étonnant qu'une enfant si jeune ait pu se remémorer si clairement le passé, il faut savoir que le temps grave ses images dans la mémoire, comme un enfant creuse des lettres avec son couteau, et moins les lettres sont nombreuses, plus il creuse profondément. Ainsi, si peu d'événements étaient survenus à Sarnes que nous ne pouvions les oublier. La voix de mère s'accrochait à mon cœur, comme les rangées d'herbes à matelas se collent à vous sur le chemin. Elle avait une voix très plaintive et douce. Tout ce qu'elle disait semblait en dire davantage que les mots qu'elle utilisait, et il lui arrivait d'être comme une funambule dans le noir, ou comme quelqu'un tâtonnant dans de longs couloirs sombres, les deux mains étendues de chaque côté, sans lumière. Elle avait cette voix-là quand elle disait « Pouvais-je empêcher le lièvre de croiser mon chemin ? Pouvais-je l'en empêcher ?» Tout ce qu'elle disait, même s'il arrivait que ce ne soit point joyeux du tout, elle le disait avec un léger sourire, de ce sourire qui veut prévenir la colère de quelqu'un, ou de ce sourire que l'on prend quand on s'est fait mal et qu'on ne veut pas le montrer. C'était un sourire douloureux, qui ne la quittait pas. Aussi, quand père donna une autre raclée à Gédéon pour avoir souhaité être le fils de Béguédi, mère qui se tenait près de la table dit « Non, Sarne, retiens-toi, Sarne !» Et elle continuait de sourire pour retenir les mains de père de sa voix douce. Pauvre mère, ô ma pauvre mère, nous rencontrerons-nous dans l'autre monde pour nous racheter de notre manque d'attention pour toi? Je n'ai jamais oublié cette fête de Pâques. Mais ce ne fut pas le cas de Gédéon, semble-t-il, parce que, quand je la lui ai rappelée en disant qu'on ne devrait pas faire cette escapade, il me répondit « Monsieur, nous demanderons à la TV du sacristain d'écouter le sermon pour nous, de façon à pouvoir bien répondre. » Et puis je m'en fiche d'être fouettée, du moment que je trouve quelques belles coquilles pour battre Jancis, parce que la dernière fois, c'est elle qui a gagné. Ces coquilles, vous le savez peut-être, sont des coquilles d'escargot, que les enfants alignent sur un fil quand elles sont vides, et avec lesquelles ils jouent comme vous, vous jouez avec des marrons. Nos bois étaient pleins d'escargots, et Gédéon faisait des matchs de coquilles avec des gars qui venaient parfois de plus de 8 kilomètres d'au-delà de Plache. Il était connu de partout, parce qu'il jouait âprement, et pas du tout comme si c'était un jeu. Toutes les cloches sonnaient quand nous partîmes ce dimanche de juin, les 4 cloches de métal de notre église et les 4 cloches fantômes venues de nulle part. Mère et des pères auprès des abeilles, préparant une nouvelle ruche près du gros châtaignier pour y mettre des seins. Elles avaient essaimé dans un groseillier mort et mère avait dit avec son sourire particulier « C'est un signe de mort. » Mais Gédéon s'était écrié « Abeilles en juin, c'est chance encore !» Et il avait ajouté « Tant que nous avons les abeilles, mère, tout va bien pour nous, et meurt qui veut. » Eh oui, je crois que Gédéon était bien âpre au gars, même alors. Mes pères pensaient qu'il était un petit gars sensé, et éclata de rire en disant « Eh bien, nous avons une telle quantité d'abeilles à présent, que si quelqu'un meurt, j'espère que ce ne sera pas moi qui devrais le leur annoncer. Où sont vos rameaux de romarin, vos livres de prière et vos mouchoirs propres ?» demanda mère. Gédéon avait espéré ne pas avoir à les prendre, mais il courut les chercher. Et mère plaça correctement mon fichu sur les épaules. Elle y épingla sa grosse broche avec une pierre noire, qu'elle avait eue quand Georges, son second, mourut. Et pendant qu'elle l'agrafait, elle ne cessait de se dire à elle-même « Non qu'il importe vraiment, comme la pauvre enfant est habillée, chérie, ma chérie, mais pouvais-je empêcher le lièvre de croiser mon chemin? Pouvais-je l'en empêcher ? Chaque fois qu'elle disait cela, sa voix devenait très plaintive, et je repensais à quelqu'un qui cherchait à tâtons dans un couloir sombre. « Alors, mère, viens tenir la ruche, pendant que je consolide la branche plus haut, » dit père. Elles ont fait leur essaim trop près du sol. J'aurais préféré rester, parce que j'aimais tellement voir cette grosse balle d'abeilles dorée comme un gâteau de Noël et entendre le bruit sourd que celle-ci faisait. Nous passâmes par le portail et le long du chemin de halage, parce que c'était le plus court pour atteindre l'église et nous voulions attraper Tivi avant qu'elle n'y entre. Il y avait des poules d'eau sur l'étang, et l'eau était de la couleur de la lumière, avec mille éclats. « Maintenant, » dit Gédéon, « nous courons pour notre vie. Qui est après nous ?»« Les génies de l'eau !» Alors nous courûmes de toutes nos forces, et arrivâmes à l'église juste au moment où les deux dernières cloches commençaient leur ding-ding-dong, qui me faisait toujours penser à la verge de Bouleau. Nous nous assîmes sur la tombe plate, où nous nous asseyions habituellement pour jouir aux conquérants. Et comme l'église était sur une petite colline, nous pouvions surveiller les deux ou trois personnes qui venaient par les champs. Il y avait Tivi, avec son père, arrivant de East Copy, et Jancis, dans les prairies du bord de l'eau, où les grandes haies d'aubépine étaient toutes fleuries. Jancis était petite, pas grande comme moi, mais c'est elle qu'on voyait toujours la première avant qui que ce fût, parce que la lumière, semble-t-il, se rassemblait autour d'elle. Elle avait les cheveux dorés, et toutes les ombres de son visage paraissaient éclairées de leurs pâles reflets. Je la comparais à un nénuphar blanc rempli de pollen jaune ou de miel. Elle avait une peau très blanche, d'un blanc crémeux, sans couleur aucune, sauf quand elle était surexcitée ou intimidée. Et son visage doux et à fossette avait juste la rondeur qu'il fallait. Sa bouche souriante était rouge et ce sourire faisait courir ses fossettes les unes dans les autres. Je l'aurais parfois presque étranglée pour ce sourire-là. Elle monta vers nous, très modeste, dans son corsage fleuri et sa jupe bleue, avec un bouquet fleuri à son fichu. Bien qu'elle n'eût que 2 ans de plus que moi, ayant l'âge de Gédéon, elle semblait pourtant bien plus âgée, car elle commençait déjà à sourire aux garçons. Et les gens disaient « La Jancis de Béguildi va bientôt être courtisée ». Mais je savais, moi, que le vieux Béguildi n'aurait jamais l'intention de la marier. Il voulait la garder comme à part, pour attirer des jeunes gars, parce que les gens qui passaient chez lui étaient pour la plupart soit des jeunes femmes sans argent, soit de vieux pingres, qui voulaient qu'on lance des sorts pour eux, sans trop débourser. Aussi, à cette époque, quand il vit comme Jancis s'épanouissait joliment, il l'encouragea à se parer et à s'asseoir à la fenêtre de la maison, prise dans la roche, au cas où quelqu'un passerait par le sentier près de chez eux. Cela n'advenait qu'un dimanche dans le mois parce que Plache était presque aussi isolée que Sarne. Il fit une lanterne de verre, couleur de rose rouge, et pendant que Jancis était assise dans l'encadrement de pierre de la fenêtre, il suspendait au-dessus d'elle cette lanterne dans laquelle il plaçait une grande bougie, à la façon des contrées étrangères, et non pas comme chez nous, qui utilisions des mèches de roseaux. Il avait en tête que si un grand monsieur passait par là, allant à une foire ou à une bataille de coqs, au-delà des montagnes, il pourrait bien tomber amoureux d'elle, et là, Béguildi avait prévu de le faire entrer, de lui offrir une bière forte, et de l'entretenir de charmes et d'enchantements, pour, à la fin, lui proposer le tour de l'apparition de Vénus. Tout cela était écrit dans l'un de ses livres. Comment l'on arrivait dans une pièce obscure, comment il fallait donner 5 pièces à cet homme avisé qui, ensuite, disait la formule magique, et comment, en un instant, apparaissait au milieu de la pièce, dans une lumière rose et un parfum de rose, Vénus, toute nue. Sauf que ce n'était pas Vénus, mais Jancis. Cependant, le grand monsieur se fit attendre, et le seul homme qui vit Jancis à la fenêtre fut Gédéon. Un soir d'hiver, alors qu'il rentrait du marché par là, parce que l'autre route était inondée. Il en devint fou amoureux et ne faisait que me parler d'elle jusqu'à me fatiguer. Il avait 19 ans à l'époque, ce qui est un âge où les garçons sont stupides. Avant cela, il ne faisait pas du tout attention à elle, sauf pour lui dire une chose ou une autre comme il le faisait avec moi. Mais ensuite, il devint tout miel avec elle, Je n'aurais jamais pu croire qu'un homme si déterminé, si sûr de lui et si intelligent pouvait être aussi faible avec une fille. Mais ce soir-là, il n'avait que 17 ans et il dit simplement « Ne va pas à l'église, John Cis, et viens aux coquilles avec nous. » « Oh !» dit John Cis, « je voulais jouer au gravier vert. » Elle avait une façon de dire « Oh !» devant chaque mot, qui faisait ressembler sa bouche à une rose. Mais le faisait-elle pour obtenir cet effet, ou parce qu'elle n'était pas bien vive, ou timide? Je ne pourrais le dire. « Il n'y a rien à gagner au gravier vert, » dit Gédéon. « Nous jouerons au conquérant. »« Oh, je voulais le gravier vert. Tu me battras si on joue au conquérant. » « Et c'est bien pour ça qu'on va y jouer. » À ce moment, Tivy arriva par le portillon, et nous lui dîmes ce qu'elle devait faire. La pauvre créature était sotte. Elle pouvait à peine retenir son propre nom parce qu'il n'était pas du coin. Alors pensée, un sermon. Mais Gédéon prétendait que dès l'instant où elle retiendrait une bribe, il reconstituerait le reste. Et il ajouta que s'il ne s'en souvenait pas suffisamment, il lui tordrait proprement le bras. Alors, elle se mit à pleurer. Puis nous vîmes le sacristain, venant à travers les champs labourés, très solennel avec son long bâton noir à bande blanche, et nous entendîmes le poney pie du pasteur qui trottait sur le chemin. Alors nous filâmes en laissant Tivy, avec son petit menton rond tremblant et sa bouche tordue, parce qu'elle pleurait, sachant bien qu'elle ne retiendrait pas un mot du sermon. Tivy, à un sermon, me faisait toujours penser à notre chien quand on le lavait. Il se couchait et laissait couler l'eau sur lui. Ainsi, elle laissait glisser le sermon sur elle. Aussi, je sus que les ennuis se préparaient. C'était un bel après-midi. Les hirondelles volaient haut dans le ciel. De fortes senteurs se dégageaient de la floraison de mai. Quand les cloches s'arrêtèrent, les nôtres et les autres, nous descendîmes regarder l'eau pour tâcher d'y apercevoir le village, comme nous le faisions souvent le dimanche. Mais il n'y avait que notre église à l'envers, deux ou trois tombes et leurs croix, et le poney du pasteur paissant, la tête renversée. Parfois, les soirs d'été, quand le soleil était bas, la flèche se reflétait droit sur notre habitation, et je pensais que c'était comme si le doigt du Seigneur fût pointé sur nous. Nous descendîmes dans les marécages et trouvâmes quantité de coquilles. Gédéon battit John Cis à chaque fois, ce qui fut une bonne chose, parce qu'à la fin il dit qu'il voulait bien jouer au gravier vert, et tous deux furent contents. Seulement nous fûmes très en retard, et faillîmes rater Tivy. « Maintenant raconte, » dit Gédéon. Elle se mit à pleurer et dit qu'elle ne se rappelait de rien. Alors il lui tordit le bras et hurla « Feu qui ne s'éteint point !» Elle avait sûrement dit cela parce que c'était l'un des textes préférés du sacristain qui le répétait constamment, tout en martelant la terre de son bâton. « Quoi d'autre ?»«
Rien !»«
Je vais te tordre le bras, le déboîter si tu ne trouves rien d'autre. » Tivy prit un air sournois, comme poussi dans la laiterie, et dit « Le pasteur a parlé d'Adam et Ève, de Noé, de Shamam Japhet et de Jésus à la crèche et des 30 pièces d'argent. » Le visage de Gédéon s'assombrit. « Ça ne veut rien dire, » dit-il. « Mais elle t'a quand même répondu. Tu dois la laisser partir maintenant. » Alors nous rentrâmes avec l'ombre de la flèche qui s'étirait à travers toute l'étendue d'eau. Père dit « Quel était le texte ?»« Le feu qui ne s'éteint point. » De quoi parlait le sermon? Le pauvre Gédéon se mit à inventer une histoire avec toutes les choses que Tivy lui avait dites. Personne n'a entendu pareille histoire. Père restait parfaitement tranquille sur son siège, et mère souriait très douloureusement. Elle était debout près du feu, en train de faire revenir une tranche de lard. Tout à coup, père hurla. « Menteur ! Le pasteur vient juste de passer pour savoir s'il y avait des malades, puisqu'aucun de nous n'était venu à l'église. Non seulement tu es allé te balader, tu mens, mais en plus, tu te moques de moi. » Son visage passa du rouge au violet avec les veines apparentes, comme de la viande crue. C'était horrible à voir. Il alla prendre la baguette pour le cheval et dit « Je vais t'administrer la plus belle raclée de ta vie. » Il traversa la cuisine vers Gédéon. Mais soudain, Gédéon se rua sur lui, tête baissée, et le prenant par surprise, le renversa proprement. Alors, soit que père ait mangé trop copieusement après sa rude journée de travail auprès des abeilles, soit qu'il fût dans une telle rage avec ensuite la surprise de la chute, nous ne l'avons jamais su. Mais toujours est-il qu'elle fut prise d'une attaque. Il ne bougea plus, mais resta couché sur le dos. Sa respiration bruyante remplissait toute la maison comme un ronflement dans la nuit. Mère lui dénoua sa cravate du dimanche, le souleva, lui mit de l'eau froide sur le visage, mais rien n'y fit. L'affreux ronflement persistait et semblait engloutir tous les autres bruits qui s'éteignaient comme des mèches de roseaux dans le vent. On n'entendait plus ni le tic-tac de l'horloge, ni le ronronnement du chat, ni le grésillement du lard, ni les bourdonnements d'abeilles à la fenêtre. Il semblait aussi engloutir la lumière et le parfum des roses blanches dehors, toutes les sensations de mon corps et ma faculté à réfléchir. Nous n'étions tous devenus qu'une partie de ce sinistre ronflement.
Sarne, Sarne, s'écria mère. Oh, Sarne, pauvre homme, reviens à toi.
Elle essaya de verser entre ses lèvres de la liqueur de genièvre, mais elles étaient trop serrées. Puis le ronflement se changea en râle, horrible à entendre. Puis, peu après, il ne s'arrêta. Et ce fut un terrible silence, comme si toute la terre était devenue muette. Pendant tout ce temps, Gédéon était resté pétrifié, n'ayant en tête, m'avoua-t-il plus tard, que le fouet avec lequel père avait voulu le frapper. Et bien qu'il n'eût jamais vu de morts auparavant, quand père se tint tranquille, que l'endroit devint silencieux, il dit de sa voix habituelle avec à peine un léger tremblement. « Il est mort, mère. Je m'en vas le dire aux abeilles, ou nous pourrions bien les perdre. » Nous pleurâmes un long moment, mère et moi, et quand nous ne pûmes plus pleurer, les petits bruits réapparurent, le tic-tac de l'horloge, le crépitement du bois dans le feu, et la respiration du chat dans son sommeil. Quand Gédéon revint, nous pûmes à nous trois placer père sur un matelas et le recouvrir d'un drap propre. Il avait de beaux traits maintenant que son visage n'était plus violet. Gédéon ferma portes et fenêtres, alla voir les bêtes, et vérifia que tout allait bien. « Vaut mieux dormir maintenant, mère, » dit-il. « Tout va bien, les bêtes sont rentrées. J'ai prévenu chacune des ruches, et j'ai pu voir que les abeilles étaient satisfaites, et qu'elles me voulaient bien, comme maître. »